Actu.
Elle.
Et lui.
Actu.
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 Elle.
Et lui.
Elle.
Lui.
Elle.
Lui.
D'actuel.
Et lui. Bonjour à vous tous, bienvenue sur 48FM. Alors nous retrouvons Guillaume et Aurélie.
Salut Anne-Marie, bonjour à tous.
Bonjour Anne-Marie.
Coucou. Donc nous vous retrouvons pour ce nouveau numéro d'Actuel et lui. Et alors on va commencer par les sujets. Aurélie, tu vas nous parler de quoi ?
Alors moi je vais vous parler de cuisine et littérature à l'occasion de Aime lire et notamment des romans de Michel Barrière.
D'accord. Et toi Guillaume ?
Je vais vous parler de Quai d'Orsay. Et toi Anne-Marie ?
Très bien. Mais je vais revenir sur l'attentat qui a coûté la vie à Kennedy il y a donc 50 ans.
Oui.
Mais pour commencer, donc Aurélie, tu vas nous mettre en appétit, si j'ai bien compris, avec l'écrivaine Michel Barrière.
Voilà, effectivement, dans ma cuisine, ah bah voilà, le lapsus, dans ma cuisine d'aujourd'hui, je vais donc vous parler de livres, de littérature et donc de cuisine. Mais pas de livres de cuisine, enfin vous me suivez là ?
Pas trop.
Genre pas de, hein. De livre de recettes, quoi.
Non, pas de livre de recettes. Je vais vous parler de romans qui mettent en scène la cuisine, donc à l'occasion du salon littéraire de Mende, qui s'appelle Aime lire, et qui cette année a choisi, après la littérature jeunesse l'an passé, de nous parler de cuisine et littérature.
Alors justement, pour commencer et pour bien faire comprendre aux auditeurs ce qu'est Aime lire, tu vas peut-être nous décrire cet événement.
Voilà, effectivement. Le salon Aime lire donc, est un événement qui met en scène le livre de manière originale, en nous offrant des approches un peu différentes du livre. Par exemple, le mardi 3 décembre à 20h15, au cinéma Le Trianon, on projettera le documentaire El Bulli sur le restaurateur catalan Ferran Adrià, suivi d'un débat autour de sa pratique, de la cuisine expérimentale, et pourquoi pas, on pourra même parler de cuisine moléculaire. Pour les plus jeunes, et puis bah pour les autres aussi, hein, mercredi 4 décembre à 17h, on donnera Charlie et la chocolaterie toujours au cinéma. Donc l'adaptation du roman de Roald Dahl par Tim Burton. De quoi j'espère donner l'envie de lire. C'est dur à dire l'envie de lire les merveilleux romans de cet auteur. Enfin, moi j'adore.
En mangeant des tonnes de chocolat.
Ouais, mais déjà on les regarde, c'est déjà magique. Et donc le vendredi soir, donc le vendredi 6 décembre à 18h à la salle Urbain 5, Aime lire proposera une conférence intitulée Histoire de la cuisine, donc par Michel Barrière. C'est une auteure et une historienne de la gastronomie. Et ce sera suivi d'un repas composé de recettes médiévales au restaurant Le Vieux Pont, pour ceux qui le souhaiteront. La conférence est gratuite, mais pour le repas, par contre, comptez 25 euros par personne. Les réservations se font à la bibliothèque Lamartine, la bibliothèque de Mende.
Oui, donc finalement, c'est un programme assez chargé. Et on se rend compte que non, on ne va pas faire que lire, même si c'est un événement littéraire.
Exactement.
Et du coup, on va manger, puisque tu nous disais qu'il y avait un repas. Alors, tu peux peut-être nous donner la composition du menu ?
Oui, effectivement, je ne résiste pas à l'envie de vous donner envie.
De vous allécher.
Hein.
Vu qu'il est midi et demi.
Voilà.
Enfin, peut-être.
Ça tombe bien, peut-être.
Puisqu'on enregistre cette émission.
Ou 18h11.
Ou 18h11, mais 18h11, c'est bon, on peut se mettre justement. Donc,
c'est l'heure de l'apéro.
Commencer avec un apéritif à l'hypocras, donc un vin aux épices marinées, accompagné de tranches de fruits frais, des pommes, c'est la saison, et des toasts de terrine, de pâté, tout simplement. Ensuite, en entrée, une soupe à l'épeautre et légumes anciens. Plat principal, civet de porc au gingembre, accompagné de ses légumes et épices. Voilà, la mode médiévale. Et en dessert, des poires cuites dans l'hypocras, accompagnées d'oubli. C'est des sortes de un peu mini-gaufres, biscuits au miel.
Alors moi, je te propose, Aurélie, puisque je suppose que tu vas y aller.
Oui, il y a des chances.
Bah, tu pourrais peut-être prendre des photos et puis les mettre après sur le Facebook de 48FM.
Ah bah oui, pourquoi pas. Pourquoi pas.
Bon, donc tu nous parles de livres ou tu nous parles de cuisine ce soir ?
Allez, enfin, je vous parle
midi,
de livres.
Parce qu'on a faim, nous.
Je vous parle quand même de livres, mais pas de n'importe quel livre. Justement, ceux de Michel Barrière, que nous accueillerons et qui nous proposera donc la conférence et le samedi pendant le salon des dédicaces.
Donc du coup, elle vient toute la semaine d'Aime lire ou juste...
Elle vient le vendredi et le samedi.
Ouais. D'accord. Ouais,
elle vient de loin, elle habite en Normandie.
Et on la retrouvera dans notre émission spéciale.
Voilà.
Il y aura lieu le samedi à 10h.
Le samedi matin. Oui, voilà. On l'invitera. J'espère qu'elle voudra bien venir nous parler, mais je pense qu'elle aime, c'est quelqu'un qui aime beaucoup partager. Donc voilà, elle viendra sans doute nous en parler.
Faudra apporter les croissants alors.
À 10h, oui. Mmh. Surtout qu'on le café. Même si, bon, bah, pour le coup, c'est pas d'époque.
Oui,
mais tant pis. D'autant
un peu anachronique, Anne-Marie.
Voilà, le café.
Oui, bah, excuse-moi, mais Michèle Barrière, elle est née à notre époque. Hein,
voilà. Mais elle a fait des études, quand même, que je vous raconte. Hein. Donc, elle a fait des études d'histoire à Paris. Elle est diplômée en histoire. Elle est membre du mouvement international Slow Food. C'est un mouvement gastronomique qui cherche à combiner le plaisir de la table avec le respect de l'environnement et de la production agricole, en sauvegardant le patrimoine culinaire mondial, donc des espèces, par exemple, de volailles, de légumes, de fruits. Elle milite de cette manière donc, pour la sauvegarde de la diversité alimentaire et des espèces dites oubliées. Et en tant qu'historienne, elle fait également partie de l'association, alors je vous le dis en latin, De Honesta Voluptate, qui est fondée, en fait, qui regroupe les gens qui suivent les travaux de l'historien Jean-Louis Flandrin. Donc cette association, en fait, reprend les acquis du séminaire d'anthropologie historique de Monsieur Flandrin, qui est quelqu'un qui a travaillé beaucoup sur le désir, le goût, et qui a travaillé en histoire sur la sexualité, l'histoire de l'alimentation, à un moment où, en fait, on considérait ça comme des genres un peu mineurs de l'histoire. L'histoire avec un grand H, c'est souvent des chiffres, de la politique, des dates, des batailles, et pas vraiment toutes ces choses du quotidien. Voilà, donc lui, il s'est intéressé avec ses élèves plutôt à cette vie quotidienne, quoi.
Donc c'est une historienne très sérieuse qui écrit aussi des romans.
Exactement. Forte de ce bagage scientifique, elle s'appuie d'ailleurs sur les premiers livres de cuisine, donc le viandier de Taïwan, le ménager de Paris ou l'opéra de Scapi. Elle écrit en fait ensuite des rubriques dans un magazine qui s'appelle Régal. C'est quand même joli. Mmh. Et elle est co-auteure avec Philippe Allante d'une série de documentaires télévisés de 43 minutes exactement, qui ont des titres assez... Donc ça s'appelle l'histoire en cuisine, et c'était diffusé sur Arte. C'est toute une série, en fait, avec des titres assez évocateurs. Pour la période romaine, c'est délices romaines. Pour l'époque médiévale, saveurs médiévales, banquet renaissance, table des lumières ou révolution au pluriel à table. Voilà, pour essayer de mettre un peu en image, cette fois, cette recherche historique. Et puis donc, elle se lance dans une saga qui va retracer l'histoire de notre patrimoine culinaire, mais sans oublier celle des mouvements culturels et politiques de la France, de l'Europe, du Moyen-Âge à la Renaissance. Ainsi, en 2006, paraît le premier tome d'une série qui en compte pour l'instant 7. Elle a dit qu'elle s'arrêterait sans doute là pour cette série-là, avec comme fil conducteur une famille de cuisiniers, les Savoisis. Donc le premier roman s'appelle « Meurtre à la pomme d'or » et est sous-titré « Roman noir et gastronomique au temps de la Renaissance ». Et Michèle Barrière ne manque pas de nous livrer au passage quelques recettes gourmandes dans un petit livret à la fin du livre. Et la même année, donc, paraît ensuite Souper mortel aux étuves, sous-titré donc cette fois un roman noir et gastronomique à Paris au Moyen-Âge. Et c'est un nouveau régal d'enquête policière et de découverte gastronomique. 2007, Nature morte au Vatican. Donc on va en Italie, on découvre la cuisine, donc l'opéra de Scapi.
Da Vinci Code.
Ah voilà, alors là c'est au Vatican, mais on va seulement côté cuisine, pas côté sculpture et église. Et puis celui qui s'appelle Meurtre au potager du roi, donc lui a lieu à Versailles au XVIIIe siècle. Les soupers assassins du régent devraient te plaire, Guillaume, puisqu'il se déroule sous la régence, donc comme Nicolas Le Floch. Ou le meurtre au café de l'Arbre Sec également à cette époque. Donc à chaque fois on découvre comment on met le couvert, comment on sert à table, le nombre de plats. Il y a des descriptions qui sont vraiment intéressantes.
Et ça donne envie.
Ah oui, ça donne envie. Moi j'ai essayé des recettes. Oui, j'ai essayé des recettes. On apprend plein de trucs en fait. L'air de rien quoi. Comment on met la nappe, comment on se tient à table, à partir de quel moment on va utiliser une fourchette. C'est tout bête, mais...
Et c'est là où on se dit, finalement, les mœurs sont vraiment changées au fil du temps.
Complètement, sinon, j'essaierai de m'essuyer la bouche avec ta robe, en fait, à un moment. Mais voilà.
C'est mignon.
Maintenant, je sais qu'on ne le fait plus. Voilà, parce que j'ai évolué depuis l'époque médiévale.
C'est gentil.
Et ils mangeaient déjà des trucs verts ou des trucs dans des tasses à cette époque ou...
Assez peu, parce que le micro-ondes, assez peu. Mais par contre, il devait y avoir des trucs un peu bizarres quand même, hein. Ou des goûts qu'on a complètement perdus.
Et elle en vit de ses livres, donc est-ce qu'elle en vend pas mal ?
Ouais. Oui, c'est vraiment... elle est publiée, donc elle a été publiée d'abord chez un éditeur dont j'oublie le nom, Agnès, je ne sais plus quoi, et ensuite elle est passée en poche, tellement, tellement elle en tire. Ouais.
Oui, puis il ne doit pas y avoir beaucoup de concurrence sur...
Sur ce créneau, il y en a quand même un petit peu. Hein. Ouais. Ouais,
c'est vrai qu'on les connaît pas tant que ça, finalement.
Moins polar. Elle écrit vraiment des polars.
Bon, et donc, il y a une actualité dans cette série ?
Eh bien oui, effectivement, en 2013, donc nouvelle intrigue de la saga savoisie où la grande histoire va se mêler aux mets les plus fins, mais cette fois de l'hôtellerie de luxe, puisqu'on se rend au Ritz avec ce tome 7, Meurtre au Ritz.
À dire, hein. C'est parce que tu n'y vas pas souvent, voilà. Alors tu n'arrives pas à le dire.
J'ai pas l'habitude de dire « Allez chauffeur, au Ritz !» C'est pour ça. Donc je vous mets en appétit. On change d'époque, car l'affaire Dreyfus bat son plein et César Ritz est sur le point donc, d'ouvrir les portes de son nouveau palace parisien, dont les cuisines ont été confiées au grand chef Auguste Escoffier. Donc que des noms voilà, qui pour nous sont passés dans le langage courant, en fait, mais qui... étaient des personnes à une époque. Et donc là, quel n'est pas le choc ressenti lorsque, à quelques jours de l'inauguration, le cadavre d'une jeune femme est retrouvé pendu dans la chambre froide du Ritz. Donc pour ne pas ébruiter l'affaire, l'enquête est confiée au filleul d'Auguste Escoffier, tiens, Quentin Savoisy. Donc on retrouve un des descendants de la famille Savoisy dont les ancêtres se sont illustrés dans les tomes précédents. Il est jeune journaliste gastronomique au Pot-au-feu, donc c'était le nom de la revue.
C'est mignon.
Voilà, c'est mignon, hein, Pot-au-feu.
Et tu travailles où ? Je travaille chez
Pot-au-feu. Voilà, c'est ça. Maintenant, tu dirais elle à table. Bon, bah, oui, voilà, tu vois, c'est moins mignon que Pot-au-feu. Et donc, épaulé par une fiancée aristocrate et féministe de la première heure, il est loin d'imaginer tout ce qui se cache derrière ce meurtre terrible. Et nous, on découvre un peu l'arrière-cour de cette hôtellerie de luxe à l'époque.
Bon, ben ça donne envie de s'y plonger, donc c'est ce qui te plaît finalement dans ce mélange d'histoire et aussi un peu de quotidien.
Voilà, effectivement, j'aime bien les expériences culinaires, même si vous deux, mes petits cobayes, vous avez parfois été victimes de cette curiosité.
Ah, c'est ce que je disais avec les trucs verts et les tasses. Hein.
Et les gâteaux. Enfin, on n'en est pas mort quand même, relativement.
Non, mais c'était quand même relativement bon.
On n'était pas malade, on a apprécié plus ou moins, tout dépend, mais c'est bon aussi de sortir un petit peu de son quotidien.
Voilà,
de...
comme quoi, n'empêche, hein, on ne peut pas en faire un polar puisque vous êtes vivant.
Donc... Ah, parce que tu voulais me tuer en plus.
Bah, j'aurais pu en faire un polar.
Tu sais qu'il y a des auditeurs qui t'écoutent. Oui. Hein, s'il nous arrive quelque chose.
Maintenant, voilà. On sait que ce sera moi.
C'est ça. On va bien garder cet enregistrement.
Donc voilà, moi j'étais contente de trouver une auteure qui, comme moi, cherche, teste. Ces polars historiques retracent toujours l'histoire de la cuisine, des manières à table, le petit cahier de recettes qui accompagne chaque livre. Car comme elle le dit elle-même, en fait, je la cite, « Écrire des polars historiques et culinaires, c'est vivre entre son ordinateur et ses plaques de cuisson, la tête dans les textes anciens et les mains dans la pâte à tarte. » Un exercice gourmand et partagé avec des amis et des voisins, car il faut bien tester ces étranges recettes. Ah ! Tout d'abord, il faut les déchiffrer, trouver les proportions, les temps de cuisson. Mes cobayes ne rechignent jamais à traverser les siècles une assiette à la main. Un peu comme moi, un peu comme vous, j'adore et j'ai hâte de la rencontrer.
En fait, il faudrait qu'elle soit surtout ta voisine.
Voilà.
Il faudrait que vous habitiez sur le même palier.
On pourrait échanger.
Voilà. Comme ça, ça serait pratique.
Je peux donc lui proposer de s'installer en Lozère.
Voilà. Elle sera peut-être contente.
Et alors, juste pour faire une petite parenthèse, vous savez qu'il y a une tablette spécialement faite pour la cuisine qui est produite en France et dont Oprah Winfrey aux États-Unis a fait la publicité récemment. Et donc, il y a un gros problème parce qu'ils n'arrivent pas à suivre du tout la production. Et donc, vraiment, la tablette est entièrement fabriquée en France. Et donc, voilà, qui est particulièrement adaptée justement pour s'en servir à la cuisine. Ouais. Et donc, c'était par rapport au lien entre l'ordinateur et la cuisine. Voilà, c'était la petite.
Mais il y avait eu le même souci avec la friteuse.
Oui, avec.
La friteuse sans huile, elle est tellement connue. Voilà, elle est tellement suivie aussi sur Twitter, Facebook. Voilà. À chaque fois qu'elle fait la promotion d'un produit, surtout quand c'est en France.
Voilà, donc désolé pour cette parenthèse, mais c'était ce qui me.
Oprah, si tu nous entends, tu parles d'Actuel et lui, et alors là, le serveur de la radio va exploser.
Donc, et donc, il existe une deuxième série de romans.
Oui, effectivement. Donc là, je vous ai dit, cette première série de sept tomes va a priori s'arrêter sur ce septième tome. Et en fait, elle a sorti donc un livre en 2011 qui s'appelle Le sang de l'hermine et 200 et d'or en 2012, qui débute une nouvelle saga. Cette fois, c'est celle d'un maître d'hôtel de François Ier qui s'appelle Quentin du Mesnil. Elle a su vraiment créer en fait un nouveau genre historique puisque donc elle ne s'épuise pas mais qu'elle arrive du coup à nous transmettre avec habileté notre patrimoine gastronomique et faire de chaque nouvelle étape historique une enquête, une découverte. Et donc ce samedi 7 décembre, donc entre 10h et 17h à l'Antirouille, elle sera là pour Emily. Cette journée donc, qui est consacrée au Salon du Livre pour tous les publics, avec des stands, avec nos libraires, des éditeurs, des illustrateurs et donc des auteurs. Mais il y aura aussi d'autres activités. Hein. Par exemple, il ne faut pas hésiter à amener vos enfants, parce qu'il y aura des ateliers. Un truc assez rigolo qui va vous plaire, un concert d'assiettes à 14h et à 16h, mais on ne peut pas le diffuser sur 48FM. Il faut venir le vivre vraiment, parce que voilà, ça va être assez rigolo. Donc, gratuit pour toute la famille. Donc, en fait, c'est un peu une fête du livre pour les gourmands. Et nous, on y sera, Guillaume.
Et oui, on y sera, voilà. Effectivement. Donc, le samedi 7 décembre. À 10h pour l'émission en direct et en public.
Vous pouvez.
Et pour l'ouverture du salon. Voilà, de 10h à 11h30, on sera en direct de l'Antirouille. Donc venez nous rencontrer aussi à cette occasion.
Peut-être que vous aussi, vous allez signer des autographes.
Mais tout à fait.
Bah, évidemment, on se prépare, on a nos photos dédicacées, tout ça.
On est prêts. On est prêts.
Bien, bah, écoute, merci Aurélie pour cette chronique, en tout cas, qui nous a fait envie.
Presque
envie
cette
de
crudité,
t'allais dire. Oui, voilà, c'est ça. Bah, on reste dans la thématique.
Voilà. Hein, c'est parfait.
Merci de nous avoir fait découvrir ou redécouvrir Michel Barrière. Et alors, pour accompagner cette chronique et non crudité, tu vas nous faire écouter quelle chanson?
Je vous propose Lynn Marlin, parce que je trouve que ça met toujours la pêche.
Allez,
voilà. C'est parti.
C'est tout. I'm sitting down here, but hey, you can't see me.
Distance, I've got to pay the price. Defending all against it, I really don't know why. You're obsessed with all my secrets, you always make me cry. You seem to wanna hurt me, no matter what I do. I'm telling just a couple what somehow gets to you. But I've learned to get revenge, and I swear you'll experience that someday. I'm sitting down. Often I don't really have a choice. You're talking like you know me and wanna be my friend. But that's really too late now, I won't try it once again. You may think that I'm a loser, but I don't really care. May think that it's forgotten, but you should be aware. Cause I've learned to get revenge, and I swear you'll experience that someday. Shadow, it's
du
Elle
et lui.
Et bienvenue dans cette deuxième partie d'Actuel et lui. Alors nous retrouvons Guillaume, oui, qui va nous faire, je crois, une chronique cinéma.
Oui, alors ouais, cinéma et puis un peu BD, même si j'ai pas eu la chance de lire la BD puisque je l'ai commandée mais je l'ai pas encore reçue. Alors voilà, effectivement, je vais vous parler donc du film Quai d'Orsay de Bertrand Tavernier, donc avec dans les rôles principaux Thierry Lhermitte, Raphaël Personnaz et Nirlea Restrup. Donc c'est un film qui est issu donc de la BD d'Abel Lanzac et de Christophe Blain, et donc le scénario est de Bertrand Tavernier, Christophe Blain et Antonin Baudry qui est Abel Lanzac. Lanzac, ouais. C'est son nom d'auteur de BD. Et donc ce film qui a été le prix du jury du meilleur scénario au Festival de Saint-Sébastien en 2013. Alors il vient de sortir, c'est pour ça qu'il n'a pas forcément beaucoup de récompenses, mais je pense qu'il en aura quand même quelques-unes.
Bah, la BD, ça a super bien marché en fait.
Tout à fait.
Tu nous racontes un peu l'histoire en fait,
parce que alors, c'est je vais assez... vous citer allociné.fr aujourd'hui. Ah. Et donc, il résume le film comme ça.
Pas d'article sur Wikipédia, non, peut-être. Ah bah voilà.
Enfin, non, j'ai même pas cherché, tiens, tu vois. Donc, Alexandre Taillard de Worms est grand, magnifique, un homme plein de panache qui plaît aux femmes et est ministre des Affaires étrangères du pays des Lumières, la France. Sa crinière argentée posée sur son corps d'athlète légèrement allé et partout, de la tribune des Nations Unies à New York jusque dans la poudrière de Lubanga. Là, il y apostrophe les puissants et invoque les plus grands esprits afin de ramener la paix, calmer les nerveux de la gâchette et justifier son aura de futur prix Nobel de la paix cosmique. Alexandre Taillard de Worms est un esprit puissant, guerroyant, avec l'appui de la Sainte Trinité des concepts diplomatiques, légitimité, lucidité, efficacité. Il pourfend les néoconservateurs américains, les Russes corrompus, les Chinois cupides. Le monde a beau ne pas mériter la grandeur d'âme de la France, son art se sent à l'étroit enfermé dans l'hexagone. Le jeune Arthur Vlaminck, jeune diplômé de l'ENA, est embauché en tant que chargé du langage au ministère des Affaires étrangères. En clair, il doit écrire les discours du ministre. Mais encore faut-il apprendre à composer avec la susceptibilité et l'entourage du prince, se faire une place entre le directeur de cabinet et les conseillers qui gravitent dans un quai d'Orsay, où le stress, l'ambition et les coups fourrés ne sont pas rares. Alors qu'il entrevoit le destin du monde, il est menacé par l'inertie des technocrates.
C'est vrai que c'est généralement un milieu assez fantasmé. Et là, justement, on nous ouvre les portes donc, du cabinet ministériel.
Et voilà, effectivement, c'est effectivement assez intéressant de découvrir cette vie d'un cabinet ministériel entre les relations entre le ministère des Affaires étrangères, en l'occurrence, et le Premier ministre ou le Président. Alors, par exemple, à l'intérieur du film, le Président parle que de l'ours cannelle qui s'est enfui. Et donc, enfin voilà, alors que derrière, il y a des histoires avec Lubanga une espèce de composite autour de l'Afghanistan, enfin en gros
au travers on comprend de quel pays et de quoi c'est on ça. Parle mais quels sont les personnages qui sont derrière
voilà. Et donc effectivement on sent ces relations qui sont tendues, comment un ministre essaye d'exister par rapport à un autre ministre, notamment la question là il y avait une ministre de la Défense. Donc on pense effectivement, hein, parce que là le ministre des Affaires étrangères qui est visé, c'est qui était dans la BD, c'est Dominique de Villepin, et là forcément c'était Michel Alliot-Marie qui était ministre de la Défense à ce moment-là. Alors on voit aussi les relations internes entre le cabinet ministériel, hein, la partie politique du ministère, et puis les services du ministère avec des fonctionnaires qui sont là, qui sont des fonctionnaires en plus du corps diplomatique, dont des gens qui ont une certaine aura, qui ont une certaine aussi puissance de leur caste, de leur organisation. Donc on sent aussi des choses des difficultés à communiquer un petit peu. Et puis on voit aussi le rythme de folie de cette vie ministérielle, et je pense qu'effectivement c'est quelque chose qu'on mesure pas forcément en tant que citoyen, mais bon voilà, je crois que effectivement dans un ministère c'est assez compliqué. On découvre aussi le rôle du directeur de cabinet, et qui est important, hein, pour faire tourner un ministère, et on en trouve dans d'autres collectivités.
Il faut être bien organisé.
Voilà, ça nécessite beaucoup d'organisation, et puis finalement il arrange les coups, c'est-à-dire que le ministre, il part dans des grands discours, etc. Puis il y a un moment où il faut aussi de l'action. Et donc, c'est lui qui a 3 téléphones en même temps, 15 conseillers qui interviennent en même temps, et dont il doit faire la synthèse, dont il doit donner une ligne. Et ça, c'est quand même assez important. Et alors, il finit par dormir dans son bureau avec le chat de son prédécesseur, un magnifique chat gris qui est très très beau. Et voilà, et qui vient se coller à lui pour passer les quelques minutes de sommeil qu'il a dans son fauteuil de son cabinet. Voilà, et puis on voit aussi les crasses entre conseillers, c'est-à-dire que notre Arthur Vlamin qui va voir sa collègue spécialiste de l'Afrique et elle le jette parce que elle au contraire quand elle la rencontre pour la première fois, Elle lui dit tout ce qui est.
Le fantôme.
Il y a quelque chose qui est tombé. C'est peut-être un parapluie. Non, bon, tout va bien. On va le refaire.
Tout le monde va bien.
On va le refaire. Bon. Oui, donc on découvre aussi les crasses entre conseillers, puisque Arthur Vlamin va rencontrer sa consoeur en charge de l'Afrique, qui lui dit que son discours est parfait, etc., que tout va bien. Et la première réunion ensuite, devant le ministre, casse son discours en disant que ce sont que des a priori, que des à peu près, et que, bien sûr, son texte est très mauvais. Enfin, voilà. Donc, voilà, les crasses, c'est aussi ce qu'on découvre. Et puis, finalement, on découvre aussi la difficulté pour Arthur Vlamin de concilier le discours politique très emphatique avec aussi du lyrisme, hein, parce qu'il faut imaginer le personnage Dominique de Villepin, qui est quand même quelqu'un d'érudit, qui aime bien se placer dans une certaine culture, et puis des contenus très techniques sur une crise diplomatique, sur un problème d'un pays. Donc effectivement, on a cette conciliation que doit faire Arthur Vlamin, qui est jeune, etc., qui prend son premier poste après l'ENA, et c'est un peu compliqué de faire c'est parce qu'il veut mettre du contenu, ce qui est normal, ça semble logique.
Il veut bien faire.
Et finalement, finalement, ce qui compte, c'est ce que je disais tout à l'heure, légitimité, lucidité, efficacité. Voilà, ça c'est... Et alors, de temps en temps, ça change, ça fait responsabilité. Donc tout ça, c'est les 3 mots-clés, vous savez, des discours, en tous les cas, c'est ce que le politique lui dit de mettre dans le discours.
Et en fait, tu nous disais que derrière tous ces personnages, on a des personnages qui existent, en fait, qui sont à peine caricaturés, et dans une BD, en fait, dans un livre.
Oui, alors en fait, c'est une BD qui a été créée donc par Christophe Blin et Abel Lanzac, Antonin Baudry, qui retrace l'expérience d'Antonin Baudry au ministère des Affaires étrangères, à l'époque de Villepin. Donc le réalisateur Bertrand Tavernier ne connaissait pas cette œuvre jusqu'à ce qu'un ami, qui fait d'ailleurs une brève apparition dans le film, lui fasse découvrir la BD en lui offrant, et lui dit « Je l'ai lu dans la nuit, d'une traite. Dès le lendemain, j'ai demandé à mon producteur et associé Frédéric Bourreboulon d'en acheter les droits d'adaptation. » Et donc, il faut savoir qu'après sa sortie, cette bande dessinée a reçu en tout 3 demandes d'adaptation. 2 pour un film et une, dont celle de Bertrand Tavernier, et une pour une série télé. Et à la base, Antonin Baudry était contre une adaptation, craignant qu'elle ne gâche l'univers de la BD. Mais après sa première rencontre avec le cinéaste, il a tout de suite accepté. Alors pour scénariser le film, les 2 auteurs et le metteur en scène se sont retrouvés chez le scénariste Antonin Baudry à New York. Bertrand Tavernier dit « J'aime l'idée d'être coupé de tous les problèmes quotidiens liés à mon boulot en France, à la SACD, à Little Beer, à la réparation de la machine à laver, donc à la SACD, donc c'est la société des auteurs auxquels il contribue, et Little Beer qui est sa boîte de production. Et dès l'horloger de Saint-Paul, donc un de ses précédents films, j'ai toujours cherché à pratiquer l'écriture délocalisée dans la mesure du possible. » C'est ce qu'il dit à Allociné. Seulement, cette première expérience créatrice s'est déroulée juste après le passage d'un ouragan qui avait ravagé la ville. Un de nos rares déjeuners a eu lieu dans un restaurant italien très chic, à l'intérieur duquel il pleuvait. On a changé 3 fois de table, puis de place à la même table pour éviter les gouttes, car l'arrosé se concentrait moins bien que les autres. Et alors, durant la scénarisation du film, l'auteur et scénariste Christophe Blin sortait, lui, d'une période de travail intense et n'avait quasiment pas dormi pendant 6 mois. En arrivant à New York, il pensait pouvoir se reposer sur le talent du metteur en scène. Or, sa première déclaration a été, il l'a retranscrit, « J'ai fait le déplacement pour travailler avec vous. Profitons-en au maximum. S'il le faut, on écrira jusqu'au milieu de la nuit. À cet instant précis, j'ai failli m'évanouir, se rappelle-t-il. » Voilà.
Bon, et puis maintenant, tu peux peut-être nous parler aussi des personnages qui sont sûrement marquants.
Et oui, effectivement, le personnage d'Alexandre Taillard de Worms, incarné par Thierry Lhermitte, s'inspire bien évidemment donc de Dominique de Villepin, on l'a déjà dit.
Il a pris un coup de vieux quand même, hein.
Oui, alors effectivement, mais bon, sans doute que c'était aussi nécessaire pour ce personnage, donc je pense qu'ils ont peut-être un peu accentué les choses.
Non, mais moi, je l'ai vu après en interview.
Oui,
hein,
oui, mais effectivement, on voit notamment au niveau de la gorge, au niveau de.
Ah, il a pris un petit
niveau
coup de vieux.
Au niveau des cheveux aussi, effectivement.
Mais bon, il est toujours aussi séduisant.
Voilà, donc c'était aussi justement, c'était un des objectifs de ressembler un peu à ce côté Villepin, sportif. Hein, fallait un...
Ah bah c'est un grand sportif, oui,
il fallait quelqu'un qui puisse courir comme Dominique de Villepin allait courir.
Il court au parc Monceau, Dominique de Villepin.
Oui, bah là il courait en bord de Seine, hein, dans le film.
Non, mais voilà. Sinon il a ses habitudes dans le 17e.
D'accord, si on veut le voir courir, c'est là où il faut aller.
Voilà, donc bon, le défi quand même pour le comédien, c'était de ne pas tomber dans la caricature, comme le précise le metteur en scène. Dès les premières lectures, il m'a proposé une idée originale qui lui permettait de s'approprier le personnage, doubler chaque propos par un geste extravagant censé l'illustrer. C'est d'autant plus jubilatoire que ces dernières années, Thierry a tenu beaucoup de rôles sérieux au cinéma, comme au théâtre. Là, j'avais l'impression de réactiver le Lhermitte délirant des années splendides, la maturité en plus. Alors, on y reviendra tout à l'heure, on ne se roule pas par terre non plus. Hein. Enfin, voilà, c'est pas les bronzés. Bon, il faut quand même noter dans le personnage d'Alexandre Taillard de Worms deux passions. La première, c'est le stabilo jaune poussin. Et attention, il ne faut pas qu'il peluche, hein, sinon il se plaint à sa secrétaire Martine du fait que le stabilo peluche. Voilà, donc il en a dans l'intérieur de son secrétaire, il en a tout un tiroir de stabilo alignés. Et alors il se sert de son stabilo pour stabiloter donc les fragments d'Héraclite. Voilà, une autre passion du ministre. Donc, ça fait des pensées un peu philosophiques voilà, qui sont comme ça, égrenées, dont, bien sûr, il demande à son auteur hein, de discours, Arthur Vlaminck, il lui demande bien sûr d'intégrer des citations d'Héraclite dans son discours. Et le réalisateur aussi a intégré ces fragments d'Héraclite comme des coupures à certains moments du film. Donc on a peut-être 5 ou 6 citations comme ça qui sont projetées au milieu pour faire passer à une séquence différente. Voilà. Et puis alors, il demande aussi à des amis poètes d'ajouter du lyrisme à ses discours. Et alors là, c'est du grand n'importe quoi, parce qu'on se retrouve avec des poètes ratés qui viennent rajouter des poncifs totalement inutiles. Et alors bien sûr, en plus, le ministre lit en 3 secondes le discours. Donc il faut placer tous les trucs qu'il veut rajouter dans les 3 premières pages, parce qu'il ne va même pas plus loin. Donc au final, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que par exemple, il propose au départ son auteur, donc il propose certaines choses qui sont à la page 10 du discours, mais bah pour le ministre, c'est comme si ça y était pas, donc il faut le réintégrer tout au début du discours. Donc, c'est assez marrant de voir ce jeu entre ce membre de son cabinet et le ministre. Alors après, on a un personnage donc joué par Nils Harestrup, qui est un très interprète donc avec beaucoup de succès. Je crois que c'est vraiment le personnage le mieux incarné du film. Encore que Raphaël Personnaz est pas mal aussi, mais il interprète Claude Maupas, librement inspiré de l'ancien directeur du cabinet du ministre des Affaires étrangères, Pierre Vimont. Or, la manière de s'exprimer du diplomate est très différente de celle de l'acteur. Et donc Bertrand Tavernier a donc demandé à Antonin Baudry, hein, qui connaissait la vie de ce cabinet, d'imiter le personnage devant le comédien. Et donc il raconte « Nils m'a foudroyé d'un regard dur, très noir, effrayé à l'idée de devoir jouer avec cette voix et ce phrasé. Moi, je ne savais plus où me mettre, mais je continuais bêtement mon imitation en ayant l'impression que j'allais me faire stranguler d'une seconde à l'autre. » Voilà. Donc, il joue vraiment ce personnage de l'ombre, hein, finalement, qui est le directeur de cabinet, qui fait que la boutique tourne. Et ça, c'est assez intéressant à voir. Et je crois que c'est effectivement assez intéressant de révéler ça au public. Et puis alors, mon coup de cœur, c'est pour Raphaël Personnaz, donc qui partage le premier rôle avec Thierry Lhermitte, hein, et donc dans le rôle d'Arthur Vlaminck. Et il est jeune, plutôt pas mal. Il incarne plutôt bien le jeune diplômé qui doit découvrir lui-même le fonctionnement du ministère, se faire une place, s'affirmer et donc faire un peu la guerre avec ses conseillers, ses autres conseillers, etc. Et tout au long du film, les moments avec sa copine permettent aussi de découvrir son personnage, sa passion pour le rock, leur amour, etc. Donc c'est assez intéressant. Il faut noter aussi d'autres personnages plutôt secondaires, mais qui sont les autres conseillers notamment, et qui sont chacun dans leur style assez réussi. La jeune fille, la jeune femme un peu qui est un peu allumeuse, et puis les vieux qui ont une expérience de diplomate pendant des années et des années. Donc voilà, tout ça est dans le film avec des personnages assez marquants, assez bien campés, assez bien. C'est assez agréable de voir tous ces acteurs.
Et tu disais que c'est Bertrand Tavernier qui a réalisé ce film ?
Oui, Bertrand Tavernier, un grand réalisateur français avec près d'une trentaine de films. Et à 72 ans, c'est quand même un grand monsieur du cinéma français. Alors, il aime changer radicalement de genre d'un film à l'autre. Et il passe ainsi du drame historique, La princesse de Montpensier, à Quai d'Orsay, qu'il considère comme sa première comédie. Alors, il dit, avec Quai d'Orsay, on est dans une réalité moderne, contemporaine, celle d'un cabinet ministériel. C'est aussi une sphère dont j'ignorais tout, c'est-à-dire le travail quotidien de la diplomatie. Or, ce qui déclenche toujours mon désir de cinéma, c'est l'exploration de mondes, d'époques, de milieux qui me sont inconnus. Pour accentuer l'exploration d'un nouvel univers et retrouver le challenge de ses débuts, le réalisateur modifie aussi régulièrement les membres de son équipe. Et bon, voilà, il a fait un assez bon boulot dans cette réalisation.
Après, ces deux BD et puis ce film, ça, enfin moi, l'impression que ça me fait quand tu le décris, c'est que c'est très caricatural. Et est-ce qu'en fait, on se rend, en tout cas, c'est l'impression que tu m'as donnée. Alors que bon, moi, ce que je connaissais de la BD, j'avais trouvé ça plus proche de la réalité. Et est-ce qu'on voit un peu dans le film quand même les vraies coulisses du ministère ? Parce que ou alors c'est peut-être toi qui as forcé le trait sur des choses très caricaturales, mais voilà, enfin le coup du stabilo par exemple, c'est anecdotique, enfin
c'est pas si anecdotique que ça dans le film,
mais du coup c'est quand même un trait très grossier quoi par rapport de Villepin, c'est quand même quelqu'un qui a une très grande culture
ce qui est montré, c'est aussi le par ce tic là, c'est l'obstination que peuvent avoir le ministre sur des choses qui sont pas forcément centrales dans le cœur de l'action, là où le directeur de cabinet va aller au fond des choses et faire tourner beaucoup de choses. C'est un peu le message moi que je retire de ce film là. Après, on voit les vraies coulisses du ministère puisque le film a été tourné au Quai d'Orsay. Donc le réalisateur a obtenu l'autorisation de tourner le film, mais aussi au Conseil de sécurité de l'ONU. Et donc c'est quand même assez intéressant, ça donne plus de réalité finalement à ce film, de le faire vraiment dans ces vrais lieux où la diplomatie se fait. Alors le tournage s'est aussi déroulé en Allemagne et à Dakar pour la représentation de Lubanga, mais aussi donc à New York, donc au siège du Conseil de sécurité de l'ONU. Voilà, et donc, alors, par contre, il y a un élément qui est important, c'est que le générique se termine par une mention assez drôle, justement sur le Quai d'Orsay, et il est précisé qu'aucune porte n'a été blessée pendant le tournage au Quai d'Orsay, parce qu'en effet, l'arrivée du ministre est marquée par des portes qui claquent et par un effet de feuilles qui virevolte à chaque fois qu'il entre. Et donc, c'est l'inverse de la bande dessinée. Paraît-il, comme je vous l'ai dit, j'ai pas lu la bande dessinée, mais dans la bande dessinée, l'arrivée du ministre est suivie des feuilles, mais c'était pas réaliste pour le tourner. Donc là, vraiment, on voit l'arrivée du ministre par les feuilles qui commencent à s'envoler, et donc c'est assez réussi en termes de réalisation. Mais voilà, c'est un peu l'exubérance du personnage public face à un cabinet qui travaille. C'est un peu ça finalement l'histoire de ce film.
Oui, on se doute que tu as apprécié ce film, vu tout ce que tu as pu nous en dire.
Oui, c'est effectivement un film plutôt réussi. La réalisation est assez rythmée, avec des choses où on est souvent... il y a des séquences où il y a vraiment des jeux de caméra où l'image saute presque un peu aux yeux parce que on va faire des très gros plans à des moments. Il y a des jeux assez puissants. Le son aussi est assez travaillé avec des effets d'ambiance gauche-droite, etc. Enfin, qui font qu'on se met à l'intérieur de justement du tour de table. Du tour de table des conseillers, par exemple. Donc ça, c'est quand même assez réussi. Alors après, Thierry Lhermitte est peut-être parfois un peu too much dans le jeu, mais globalement, c'est assez réussi. Bon, c'est effectivement sur ces aspects, peut-être un peu sur ces mimiques là dont on parlait tout à l'heure, dont il appuie son discours, où il est sans doute un petit peu caricatural par rapport à la façon dont Dominique de Villepin le faisait. Alors voilà, c'est une comédie, mais c'est pas non plus une comédie où on se roule par terre. Hein. Voilà, c'est effectivement des situations qui font sourire. Enfin voilà, mais on ne rigole pas à gorge déployée, mais c'est pas non plus le propos du film. Alors moi, je conseille plutôt d'aller voir ce film. Hein. Il va être au Ciné-Théâtre à Saint-Chély et puis je crois aussi à Mende dans les prochaines semaines. Ça se donne une bonne idée, je trouve, du fonctionnement d'un cabinet mystérieux. Je sais pas trop comment ça existe, mais connaissant un peu les cabinets dans des collectivités, il y a aussi cet effet de bouillonnement, de choses qui peuvent être importantes. Et puis le travail de lien avec les élus, c'est aussi un élément important.
Et on sait si Dominique de Villepin a vu le film ?
Alors, je ne l'ai pas vu dans la presse que j'ai lue sur le film, mais il n'y a pas eu forcément de réaction. Sur la BD, je crois qu'il avait fait une réaction très... où il disait qu'il n'était pas totalement, enfin ça lui déplaisait pas totalement non plus, mais voilà,
ça lui allait
à peu près. Ouais.
Oui, après en même temps, le premier tome il était sorti quand même sous pseudonyme puisqu'il travaillait toujours dans son cabinet. L'auteur, c'est seulement au tome 2 qu'on a su. On se doutait bien que c'était quelqu'un qui était très proche, mais on savait pas qui c'était vraiment, et c'est seulement au deuxième tome que oui. Là on a su qui c'était quoi.
Oui, mais c'est vrai qu'il a vécu la préparation de ce grand discours de politique de la France à l'ONU. Donc c'est ça qui finalement fait le cœur de ce film et de ces BD, voilà, où il raconte cette histoire. Voilà.
Et qu'est-ce que tu nous proposes d'écouter pour assaisonner tout ça ?
Eh bien, je vais vous proposer d'écouter, de vous mettre un peu dans l'ambiance du film avec la bande originale du film et le moment du discours à l'ONU. C'est une bande originale de Philippe Sard, un grand auteur, un grand compositeur de musique de film. Thank you. Actu,
elle
et lui.
C'est parti. Donc on est de retour dans Actuel et lui. Anne-Marie, c'est toi qui es à la parole. Tu vas nous parler de Kennedy. Alors on a fait de l'histoire en livre, de l'histoire en BD et en film. Mais là, toi, tu vas nous faire de la vraie histoire.
Je vous propose de revenir sur l'incroyable vie de JF Kennedy qui s'est interrompue de façon brutale le 22 novembre 1963. Aussi surprenant que cela puisse paraître, un demi-siècle après l'attentat dont le 35e président des États-Unis a été victime, impossible de savoir qui sont ces meurtriers. Ce qui explique peut-être le caractère légendaire qui entoure l'un des personnages les plus populaires du XXe siècle.
Et alors que faut-il retenir de sa vie ?
Alors, John Fitzgerald Kennedy est né le 29 mai 1917 à Brooklyn. Il est le second d'une famille qui compte quand même 9 enfants. Moi, je dis chapeau à la mère. Ouf. Après la Seconde Guerre mondiale, Kennedy débute une carrière politique en se faisant élire à la Chambre des représentants. En 1952, il est candidat au siège de sénateur. Plus jeune président élu en 1960 face à Nixon, Kennedy n'a que 43 ans. Il est aussi le plus jeune à mourir au cours de mandat, assassiné moins de 3 ans après son entrée à la Maison-Blanche. Il reste aujourd'hui le seul président américain de confession catholique.
Ah bon, et pourtant il jure pas sur la Bible, non ?
Oui, mais ils sont protestants.
Oui. Ah oui, d'accord.
C'est donc ils ont aussi la Bible.
Ah oui, c'est pareil. Vrai que ça marche.
Et oui, ça marche aussi, oui.
Désolée, je fais preuve de mon inculture.
Non, mais au moins, ça aura appris quelque chose voilà. Ce soir.
Mais moi, cela dit, j'ai appris que c'était le seul de confession catholique, parce qu'effectivement, je n'avais jamais fait attention. Et on a parlé aussi pas mal de problèmes de santé à son sujet.
Oui, alors depuis l'enfance, hein, il avait quand même de gros problèmes de dos à cause d'une colonne vertébrale instable, ce qui l'obligera toute sa vie à utiliser des béquilles hein, cachées au public, à se reposer aussi fréquemment et à porter un corset dorsal. De plus, il est atteint de la maladie d'Addison, une sorte de déficience hein, des glandes surrénales, lesquelles produisent des hormones antidouleurs osseuses. Alors, pour soulager tout ça, il reçoit régulièrement des injections de cortisone et de stéroïdes. Il prend aussi des amphétamines. Et bien, ce cocktail médicamenteux lui permet de déployer une énergie hors du commun et d'assouvir une libido hyperactive.
Son corset, il n'a pas empêché les balles parce que.
Eh bien, justement, non. Après, on verra qu'il n'a pas été touché au dos, mais à la tête.
À la tête, bah oui. Et alors, justement, avec toute cette énergie, effectivement, on parle souvent de l'appétit sexuel de Kennedy, comme voilà, une de ses frasques connues.
Effectivement, John Kennedy est aussi connu pour ses multiples maîtresses et conquêtes féminines. Alors qu'il épouse Jacqueline Bouvier en 1953, il y a donc 60 ans, qui lui a donné 2 enfants, John succombe au charme de Marilyn Monroe,
oui.
On s'en souvient tous, en 1962.
Oui,
alors cette relation extra-conjugale n'était apparemment pas un secret pour Jackie Kennedy. Enfin, d'ailleurs, pour personne, hein, je crois.
Oui.
Persuadée qu'elle allait un jour partager la vie de JFK, l'actrice aurait appelé l'épouse de son amant afin de lui révéler qu'ils avaient une liaison et qu'elle épouserait bientôt le président. Moi, je la trouve un peu gonflée.
Oui, c'est
la légende veut que Jackie Kennedy lui réponde ceci. « Marilyn, vous allez vous marier avec Jack, c'est super. Et vous allez vous installer à la Maison-Blanche, assumer les responsabilités et je déménagerai et vous aurez tous les problèmes. » Alors, en gros, ça révèle qu'une maîtresse n'a que des avantages et la first lady, que des inconvénients. Alors, une autre de ses maîtresses célèbres est évidemment Marlène Dietrich, actrice et chanteuse. Bah, tant qu'à faire, il
connaît
aussi
des belles femmes. Pas des boudins, effectivement.
Bah, quand même. Bon, c'est vrai qu'après, il était bel homme. Et puis bon, il était président. Donc, à chaque fois, le pouvoir attire. En 1961, lors d'une rencontre officielle, avec le premier ministre britannique Harold Macmillan, Kennedy aurait confié « 3 jours sans faire l'amour et c'est le mal de tête garanti. Je ne sais pas si c'est aussi votre cas, Harold.
Voilà. » Ça devait être sympa pendant le dîner officiel d'avoir ce genre de conversation.
Exactement.
Mais quand même, on peut retenir d'autres choses de ce grand président.
Oui, alors on va quand même retenir aussi ses combats. Parce que dès son arrivée à la Maison-Blanche, Kennedy s'entoure d'une équipe de conseillers plus étoffée que jamais. Au gouvernement, le président appelle également des hommes de qualité. Alors, davantage attiré par les affaires internationales que par la politique intérieure, John Kennedy se décharge de celle-ci sur son jeune frère, Robert, qui lui, à cette époque, a 35 ans, auquel il confie l'influent ministère de la Justice.
Ah, donc ils font de la politique en famille.
Exactement. Alors les États-Unis, grands bénéficiaires de la défaite hein, du nazisme, jouissent au début des années 60 d'une insolente prospérité. Mais le pays est gangréné par la ségrégation raciale. En 1963, la situation devenant explosive, le président prononce un discours solennel pour l'égalité des droits civiques entre blancs et noirs. Quelques semaines plus tard, Martin Luther King enfonce le clou en organisant à Washington une manifestation triomphale. Kennedy reçoit alors le leader noir. Le mouvement est désormais lancé, mais c'est seulement après la mort du président que sont votées les lois abolitionnistes qu'il a mises en chantier. Alors, par ailleurs, dès son arrivée à la Maison-Blanche, le président relève le défi spatial hein, des Soviétiques. Il lance le programme Apollo et fait la promesse d'envoyer un Américain sur la Lune avant la fin de la décennie. Promesse tenue à titre posthume puisque c'était en 1969.
Oui, mais oui, c'est la guerre des étoiles, effectivement.
Effectivement. Alors, les Américains lui sont aussi reconnaissants d'avoir relancé la lutte contre la pauvreté ainsi que d'avoir inauguré des rapports plus équilibrés avec l'Amérique latine. Mais c'est également sous l'ère Kennedy que la guerre froide a été aussi intense. Rappelez-vous de vos cours d'histoire, le 22 octobre 1962, Kennedy affiche sa fermeté, dans un discours télévisé. Il ordonne une quarantaine autour de Cuba pour empêcher les navires communistes de livrer le matériel destiné aux bases de missiles. Avec ce blocus, on frôle à tout moment l'incendie qui pourrait dégénérer
l'incident.
Et oui, mais l'incendie, ça marchait bien.
Mais aussi, voilà, il faut éteindre le feu, n'est-ce
voilà.
pas
Oui, il y a le feu nucléaire.
Oui, et qui aurait pu dégénérer en Troisième Guerre mondiale.
C'est la fameuse crise des missiles.
Une autre date rentrera dans l'histoire. C'est donc celle du 22 novembre 1963. Kennedy entame la campagne pour sa réélection par un voyage au Texas, à Dallas plus précisément, avec sa femme. À 12h30, une balle en pleine tête, Guillaume, et pas dans le dos, met fin à la vie de Kennedy.
Et oui, c'est pas le seul président d'ailleurs à avoir été assassiné.
Exactement. Alors, Abraham Lincoln, 16e président des États-Unis depuis 1860, est assassiné le 15 avril 1865, victime d'un complot politique. Il meurt au petit matin d'une balle logée dans le cerveau. Comme quoi, ça marche toujours. Hein. 4 personnes ont été condamnées. Non, mais c'est vrai, c'est au moins radical.
Si jamais vous voulez tuer le président, mettez-lui directement une balle dans le cerveau.
On va voir qu'à chaque fois, c'est à peu près le même mode opératoire. Donc, 4 personnes ont été condamnées à mort hein, par un tribunal militaire à la suite de cet assassinat. On fait un saut dans le temps, mais pas dans l'espace. Toujours aux États-Unis, le 25e président, William McKinley, a été assassiné par un anarchiste en septembre 1901, de 2 balles dans l'abdomen.
Voilà, il a eu son corps. Voilà.
Et c'est le très célèbre Theodore Roosevelt, alors vice-président, qui lui succéda à la tête du pays. Alors, au début du 20e siècle, il ne fait pas bon d'être président. Alors, je vais vous donner une petite liste. Hein. Francisco Madero, président du Mexique. Sidonio País, président du Portugal. Michael Collins, président du gouvernement provisoire d'Irlande. Albero Obregón, président du Mexique. Ou bien Luis Sánchez Cerro, président du Pérou, sont également assassinés.
Vous remarquez un accent absolument merveilleux.
On sent qu'elle a répété pendant tout le week-end.
On sent surtout que j'aime beaucoup l'espagnol. Voilà, Alors honnêtement, la liste n'est pas complète, hein, puisqu'on trouve presque autant de présidents assassinés que de pays dans le monde. En Somalie, au Tchad, en République populaire du Congo, à Madagascar, en Afghanistan, au Liban, en Bolivie, au Burkina Faso, en Pologne, au Sri Lanka, au Burundi, au Rwanda, au Niger, enfin, etc., etc. La France ne fait pas exception. Sadi Carnot, né à Limoges, petit clin d'œil au papa d'Aurélie, devient président de la République le 3 décembre 1887. Le 25 juin 1894, Sadi Carnot meurt d'un coup de poignard donné par un anarchiste italien. Il repose désormais...
Pas dans la tête.
Non. Il repose désormais au Panthéon à Paris. Non, mais je n'ai pas non plus fait la liste de tous ceux qui sont morts avec une balle dans la tête. Hein. Quelques années plus tard, Paul Doumer, alors président de la Troisième République, est assassiné en 1932 par un jeune émigré russe. 2 balles se sont logées dans son crâne, une troisième dans son aisselle droite.
Alors d'autres faits ont marqué l'histoire.
Oui, alors moins grave, il y a quand même eu aussi des tentatives de meurtre en France. Donc souvenez-vous de Georges Clémenceau, légende vivante hein, au sortir de la Grande Guerre. Mais au matin du 19 février 1919, alors qu'il se trouve à l'arrière de sa voiture, rue de Rivoli, l'anarchiste Émile Cottin lui tire dessus à 3 reprises. Alors, une balle, jamais extraite, se loge dans l'omoplate à quelques millimètres de l'aorte. L'attentat déclenche dans la population et dans la presse une émotion extraordinaire. 6 jours plus tard, il reprend ses activités, faisant preuve d'une santé vigoureuse pour son âge. Il a quand même 78 ans. Et conserve son poste de président du conseil jusqu'en 1920. L'attentat du Petit Clamart, ça vous dit forcément quelque chose?
Oui.
Le 22 août 1962, le président de la République, Charles de Gaulle, et sa femme sont les cibles d'une...
Yvonne.
C'est vrai. Sont les cibles d'une tentative d'assassinat. Alors qu'ils sont en voiture, une balle passe à quelques centimètres des visages du couple présidentiel. Et plus récemment, en 2002, le président Jacques Chirac a été l'objet à Paris d'une tentative d'assassinat.
C'est le 14 juillet, non ?
Oui, c'est ça. Perpétré par un militant d'extrême droite. Donc, celui-ci a été arrêté après avoir tiré un coup de feu en direction du chef de l'État à une distance de moins de 150 mètres pendant effectivement le traditionnel défilé militaire de la fête du 14 juillet.
Il y avait eu aussi une forte émotion. Hein. C'est vrai que les gens...
Oui. C'est vrai que c'est quand même un jour où, a priori...
Ah, en plus, mais même qu'on tire sur le président, c'était quand même...
Oui, parce que autant si ça s'est passé, c'est vrai, c'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà. Et puis, c'était un fait coutumier, quelque part, au début du XXe siècle. C'est vrai que nous, on n'a pas l'habitude.
Et maintenant, on est passé au sifflet.
Voilà, c'est vrai. Enfin, c'est moins dangereux.
C'est moins violent, oui, voilà.
Ça fait moins de mal.
Voilà.
Mais,
c'est moins radical.
Ça déconstruit quand même l'image. De...
Tout à fait. En tout cas, cette piqûre de rappel nous remémore nos cours d'histoire. En tout cas, je l'espère, mais révèle surtout que c'est bien l'assassinat de JF Kennedy, bien plus que les autres, qui reste en mémoire et fait couler encore beaucoup d'encre 50 ans plus tard.
Alors, pourquoi ça, d'ailleurs ?
Alors, qui a tué le président Kennedy ?
Ah bah, alors là, si tu nous révèles un truc, scoop sur 48 FM.
Oh. Non, impossible.
Ah mince.
Impossible, je suis navrée. Je suis navrée, pourtant j'aurais bien aimé, mais
un demi. Ah bah ça sert vraiment de quelque chose d'avoir fait une chronique sur le sujet. Si on n'a pas une info neuve, rien.
Je te remercie, Guillaume.
Non, on a dit que c'est des trucs d'actualité, non ?
Et bah, l'actualité, c'était l'anniversaire.
Mais oui, alors ça va, j'ai bien le droit de charrier un peu Anne-Marie.
Non.
Bref. Donc non, je ne sais pas qui a tué le président Kennedy, mais on va peut-être y voir un petit peu plus clair. Un demi-siècle après le drame, nous ne connaissons toujours pas réellement le nom de ces meurtriers. Alors pourquoi je dis pas réellement ? Selon les enquêtes officielles, un certain Lee Oswald, 24 ans, a assassiné le président, quoique la seconde enquête ait estimé qu'il y a eu conspiration. Lee Oswald est donc connu pour avoir été le principal suspect de l'assassinat de Kennedy. Cependant, aucun procès, ni même le début d'une instruction judiciaire n'a pu avoir lieu. Le jeune Oswald a en effet été abattu le 24 novembre 1963, soit 48 heures après le décès du président. Il n'a donc jamais pu dire le pourquoi du comment. Cette thèse d'un seul tireur a souvent été remise en cause. Idem pour la théorie de la balle unique ou balle magique, selon laquelle une seule balle aurait causé l'ensemble des blessures non fatales subies par le président Kennedy et son gouverneur. En réalité, 3 balles ont été tirées, mais par qui ? Alors, selon un sondage réalisé à la mi-avril 2013, encore près de 61% des Américains pensent que plusieurs personnes sont impliquées dans un complot visant à tuer le président, alors que seulement 24% d'entre eux estiment qu'Oswald a agi seul. Mais qui aurait vraiment pu tuer Kennedy et surtout pourquoi ? Les Russes ? Après tout, lors de l'assassinat du président, on est en pleine guerre froide. Ou bien le vice-président des États-Unis,
ah oui.
Lyndon Johnson ? Après tout, le jour même de l'assassinat de Kennedy, il devient de fait président des États-Unis. La mafia ? Après tout, son frère Robert Kennedy, lui aussi assassiné le 6 juin 1968, ministre de la Justice, comme je vous ai dit tout à l'heure, a travaillé pour la commission anti-mafia. Bref, les théories plus ou moins loufoques sont nombreuses et ne cessent de nous faire fantasmer 50 ans après l'assassinat de Kennedy. Pour preuve, dans un article paru dans Midi Libre le lundi 18 novembre, Claude Mossé, journaliste, alors c'est un journaliste qui est installé dans le Vaucluse, mais qui à l'époque travaillait pour une radio suisse. Alors là, c'est le titre de l'interview, c'est « J'ai enquêté à Dallas sur l'assassinat de Kennedy ». Et donc, à la question de la journaliste, pour vous, 50 ans après, qui était derrière cet assassinat ? Claude Mossé répond « Le vice-président Lyndon Johnson ». il était contre l'opération Baie des Cochons. Vous savez, c'est une opération qui s'était passée...
Débarquement à Cuba.
À Cuba, merci. Il faisait partie du voyage aux côtés du président, mais dans une autre limousine. Et curieusement, alors qu'il n'était pas pratiquant, quand on constate la mort de Kennedy, il sort une Bible de son veston et prête serment au pied de la passerelle de l'avion en un clin d'œil. La continuité de l'État est alors assurée. Voilà.
Ouais, et Anne-Marie a utilisé son fluo orange pour vous préparer ce petit extrait.
Toujours.
Et donc, si on veut en savoir plus, se replonger un peu dans cette histoire, on fait comment ?
Alors là, c'est le moment, forcément, puisqu'on on fête le 50e anniversaire de sa mort. Alors, asseyez-vous dans votre canapé, hein, au chaud, avec un plaid sur les jambes, et regardez Henri...
Mais non, il ne fait pas froid.
Oui, non, on est mieux sur son canapé avec son plaid, ça va ensemble.
Voilà, à voir sa petite tisane.
Ou son chat, oui.
Ou son chat, ou son chien, ou tout ce que tu voudras. Et regardez en replay, par exemple, la chaîne D8 hein, qui a diffusé le documentaire « Le jour où Kennedy est mort », présenté par Philippe Labraud. La chaîne Chérie 25 a proposé le téléfilm JFK « Le destin en marche » avec Patrick Dempsey.
Waouh, wow. De Grey's Anatomy.
Voilà. France 3 a diffusé un excellent reportage le vendredi 25 novembre intitulé « John Kennedy, un destin politique » que je vous conseille vivement. Il était vraiment excellent. Cette biographie retrace le parcours de Kennedy de sa naissance dans une riche famille catholique, comme on a pu le dire, à sa victoire contre Nixon en 1960, avant de s'interroger sur son bilan à la Maison-Blanche, notamment les stratégies médiatiques extrêmement modernes qu'il fut le premier à mettre en pratique, tout en restant attaché aux conseils de ses frères et de son père tout-puissant. France 2 est également revenue sur le mystère de l'assassinat de Kennedy dans son émission du 13h15 le dimanche 17 novembre.
Voilà, enfin, c'est bien aussi.
Très très bien, très très bien. Donc voilà, effectivement, ce sont des exemples d'émissions, mais vous pouvez en voir d'autres sur toutes les chaînes, puisque je vous dis, en ce moment, tout le monde y va de son commentaire. Et aux États-Unis, il y aura aussi des célébrations publiques voilà, pour rendre hommage à Kennedy.
Ouais. Et puis, il y avait le film aussi, enfin moi, que j'avais vraiment... que j'avais vraiment
avec beaucoup, Kevin Costner.
Voilà, JFK, je suis en train de chercher le réalisateur depuis que tu m'as dit que tu faisais cette chronique, mais je ne sais plus. Je sais plus si c'est Ridley Scott ou non, je vais dire une bêtise, mais en tout cas c'était un super film et ça remettait un peu les choses en perspective justement avec l'histoire de la balle magique.
Exactement.
Il y a des petits dessins où on t'explique pourquoi certains parce pensent que ce serait pas possible.
Finalement, à l'époque, l'enquête disait que, voilà, il y avait une balle magique et le film va démontrer que c'est impossible. Voilà. Donc oui, c'est
avec un seul tireur, deux tireurs, exactement. Trois tireurs. Ouais,
c'est avec aussi un vieux fusil qui finalement n'avait pas la réactivité qu'on lui prêtait. Voilà. C'est là aussi où on voit que les États-Unis, qui sont quand même la première puissance, avec des services, des renseignements généraux puissants, même s'ils sont un petit peu moins qu'en Israël, mais quand même, on se dit qu'ils sont pas fichus de découvrir qui a tué le président Kennedy. C'est bien qu'ils l'ont trouvé, peut-être, et qu'il
voilà.
Y a
des... enfin, ouais, c'est ça,
et qu'ils n'ont pas voulu révéler.
On a mis le couvercle sur la marmite.
Bah, surtout si c'était le nouveau président. Hein.
Oui.
Voilà. Bon, après, voilà, je n'ai pas dit que c'était forcément Johnson, mais c'est vrai que...
Anne-Marie va être enlevée cette nuit par la CIA.
si je ne suis pas là demain, si j'ai été
kidnappée,
torturée à mort,
emmenée à Guantanamo, comme ça, ce sera à Cuba, tu pourras pratiquer l'espagnol.
où je vais devoir manger des gâteaux verts d'Aurélie à base d'algues.
Voilà.
C'est la pire des tortures.
C'est ça. Et justement, qu'est-ce que tu nous proposes d'écouter pour voir si on te met ça en fond sonore à Guantanamo ?
Alors, si on fait fi des anachronismes, Marilyn Monroe aurait pu chanter « Monsieur, je t'aime » des Brigitte, une chanson tout en sensualité.
Monsieur, je t'aime, monsieur, je t'aime. Rendez-vous au cinéma. Impatiente, infidèle, je ne vous résiste pas. Mes verres fumés, mon vieil empare. Je suis cachée, coupable et fière. Échappée pour quelques heures d'une vie rangée. Parenthèse, mon interdit, ma folie douce. plus tendre ni sauron, mais il se cache dans vos baisers, un je ne sais quoi qui me rend cinglée.
Et voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir écoutés sur 48FM. Alors voilà, on a parlé effectivement beaucoup d'histoires aujourd'hui. Donc bah, vous pouvez bien sûr réécouter cette émission. C'est le mardi à 18h11 ou jeudi prochain aussi à 12h30. Voilà, vous pouvez l'écouter aussi sur 48FM.org, réagir sur les réseaux sociaux. Et puis, bah, n'hésitez pas à venir nous rencontrer lors de l'émission spéciale que organise 48FM à l'occasion du salon Aime Lire. Voilà. À
Merci
bientôt.
Merci Guillaume. À bientôt tout le monde.
À très bientôt.
Actu.
Elle.
Et lui.
Actu.
Actu.
Actu. Elle et lui.
Elle.
Lui.
D'actuel.
Et lui. Oh.